Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bonjour et bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F Hauts-de-France. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons de parler d'un sujet d'importance aussi intéressant qu'indispensable. Je veux parler de veille dans le domaine de la pédagogie et de la formation. Vous connaissez certainement notre invité du jour puisqu'il sévit sur LinkedIn ou encore sur le médium historique Todd Cursus. Nous avons le plaisir d'accueillir Gérald Thirault. Gérald, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots?
Je viens d'une reconversion professionnelle, je suis issu d'une reconversion professionnelle et j'ai obtenu le titre professionnel FPA, formateur professionnel d'adultes, à l'AFPA, là où j'habite. Je suis dans la quatrième année de mon exercice de formateur et encore tout récemment, jusqu'à la fin d'année dernière, je travaillais pour le CESAM à Dijon, donc le CESAM qui est un centre de formation dédié à l'emploi et à l'orientation professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi. Donc actuellement, voilà, je suis juste rédacteur pour le site francophone Todd Cursus pour l'instant. Je suis en train de me réorienter professionnellement vers d'autres projets.
Et au fait, Gérald, c'est quoi la veille pédagogique au juste? Comment est-ce qu'on peut le dire autrement?
Comment dire ça autrement? Bah, la veille, ça va être de rester, on va dire... Je vais faire un parallèle avec ma formation de formateur. C'est quelque chose dès le début dans la formation où on m'a invité plutôt à aller chercher de l'information, à creuser les informations qu'on me donnait. Et donc la veille, je pense qu'on pourrait le résumer comme une façon de continuer d'améliorer aussi ses pratiques professionnelles en allant regarder par exemple des articles qui sont sur des sites web, lire des publications, lire des livres, ça peut être sous différentes formes. Alors je pense que ça, on va être dans une dynamique de développement professionnel. Voilà, la veille. Moi, je le vois comme ça.
On sait désormais le dire autrement. Continuons. Quel est donc l'intérêt de cette veille pour le formateur, mais plus largement encore pour un organisme de formation? Et prenons pour exemple un sujet qui est toujours brûlant, Calliope.
Comme je viens de le dire par rapport au formateur, vraiment dans une logique de développement professionnel, c'est vraiment pour lui d'assurer de façon continue, on va dire, la qualité de ses prestations, en restant, je veux dire, au courant des nouvelles technologies, par exemple, de s'informer sur de nouvelles méthodes pédagogiques, ouais, ou de bonnes pratiques, hein, où ça peut lui donner des idées, des pistes pour améliorer aussi sa pratique. Hein. Moi, par exemple, moi, je m'en sers beaucoup aussi pour améliorer ma pratique professionnelle. C'est une grande source d'idées, c'est très riche, en fait. La veille, parce qu'on peut très vite se perdre aussi dans ce flux d'informations. On est dans un monde très connecté. C'est vrai que la veille, c'est très intéressant de savoir aussi la cibler. Et je pense aussi, si on va au-delà du simple formateur, mais de l'OF, de l'organisme de formation, c'est vraiment pour lui, autant pour le formateur, c'est un développement professionnel. Je veux dire que pour l'OF, c'est la même chose, mais on va dire c'est une logique d'amélioration continue. Ce qui veut dire que voilà, on va dire ça va s'inscrire. Oui, comme vous avez cité Calliope, c'est sûr que Calliope, on va dire invite plus que force, invite à faire de la veille, parce qu'il y a différents indicateurs, que ça soit réglementaire ou pédagogique, technologique, à garder par la veille. Mais c'est vraiment une invitation, on va dire, garder ce mot-là, une invitation à collecter de l'information et en discuter ensemble. Moi, je le vois surtout comme ça. Calliope, c'est un moment qui est donné à une équipe pédagogique de pouvoir avoir une réflexion sur ses habitudes pédagogiques, par exemple, ou ses pratiques. Et je trouve que c'est un formidable outil, entre guillemets, pour pouvoir en discuter ensemble. Donc, à la fois, pour résumer assez vite, pour le formateur développement professionnel et puis pour un OF, logique d'amélioration continue.
On le sait, le web est vaste, il est riche. Comment trier dans toutes ces informations? Comment s'organiser pour mener à bien sa veille?
Bah déjà, il faut définir les objectifs de sa veille, savoir la veille, qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous apporte en termes d'informations, ce qu'on va rechercher comme information. Ça veut dire qu'on va pas aller regarder tous les sites web qui se proposent à nous, c'est qu'on va aller cibler les sites, les différentes sources d'informations. Et à partir de ce ciblage-là, après on va regarder les différentes informations produites par cette veille, et puis on va aussi adapter cette information, ce que ça se trouve... Je veux dire, pour un site donné, bah, sur peut-être 5 articles publiés, il n'y en a peut-être que 3 qui vont nous être utiles à nous, qui vont nous parler. Donc voilà, il va falloir définir des objectifs, les objectifs de sa veille en amont.
On parle depuis le début de la veille. Existe-t-il des veilles ?
Comme il y a plusieurs indicateurs, par exemple dans Calliope, on voit qu'il y a plusieurs types de veilles qu'on peut faire. On peut faire de une veille pédagogique, on peut faire tout ce qui est une veille réglementaire, on peut faire aussi une veille, si c'est sur de la stratégie, sur un secteur d'activité, une veille sectorielle aussi. Enfin, ça dépend vraiment des objectifs de base qu'on s'est fixés par rapport à sa veille. Si je prends mon exemple à moi, c'est vraiment une veille qui est orientée pédagogie, technologie. Bon, je vais m'intéresser un petit peu à ce qui est veille réglementaire, mais ça va pas être l'essentiel de ma veille. Mais il existe, il n'y a pas qu'une seule veille, il y a plusieurs veilles.
Et combien de temps faut-il y consacrer ?
C'est vraiment en fonction de la personne, ce qu'elle recherche dans la veille, est-ce qu'elle a besoin d'en faire toute la semaine ou de temps en temps, ou voilà, c'est vraiment en fonction toujours de ses objectifs, on va dire personnels, professionnels pour le formateur. Est-ce qu'il a besoin de faire de la veille ? Non, peut-être un petit peu de temps en temps, voilà. De toute façon, on en fait tous plus ou moins de la veille, chacun à notre niveau, chacun fait de la veille.
Finalement, quel que soit le temps que l'on y consacre, on peut se demander comment faire pour automatiser sa veille, pour ne pas lui courir après en permanence, si je puis dire, mais la faire venir à soi.
Ah bah alors effectivement, oui, il existe deux méthodes. Alors oui, alors il y a la méthode ce qu'on appelle pull, où en fait, on va aller sur les sites chercher l'information. Alors c'est ce que je faisais au début, et puis ça m'a très vite... J'ai vu que c'était très chronophage, très long, très répétitif. C'était très contraignant pour moi, et du coup, j'ai cherché des solutions plus adaptées, en fait, à faire venir plutôt l'information vers moi que d'aller vers elle. Et donc là, ça va être plutôt la méthode push, et ça veut dire que j'utilise, moi, des agrégateurs de flux RSS comme outil pour... en fait, je suis directement connecté au site et en fait à leur publication. Et comme ça, après, j'utilise deux outils. Et l'outil, en fait, me crée ce qu'il appelle un digest chaque jour, en fait, des informations des sites que je suis. Et comme ça, je peux... L'information est directement vers moi, j'ai plus qu'à lire. C'est un peu comme si je disais, j'ouvrais mon journal et je regarde des informations et je refais un tri sur l'information qui est donnée pour voir si c'est pertinent, si ça me convient, ça me concerne, si c'est intéressant que je repartage, et ça me permet après, j'en fais une première lecture, on va dire, à froid, et je mets à lire plus tard, et après, dès que j'ai un moment, je me remets dessus de façon plus approfondie.
Et évidemment, il faut que nous en parlions. La veille nous renvoie à la notion de communauté professionnelle, d'une communauté de veilleurs, si je puis dire. De qui est-elle composée dans votre cas ?
Vous avez par exemple Veille Formation qui fait d'excellent travail, alors qui va, on va dire, sur différents versants de la veille, enfin qui va s'occuper de tous les versants de la veille, hein, que ce soit réglementaire, sectoriel, pédagogique, comme on a cité tout à l'heure. Vous avez plusieurs sites comme Sidologie que j'aime beaucoup suivre. Mais ce qui est bien aussi avec la veille, c'est que ça permet aussi de briser en fait tout ce qui est les frontières. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller faire de la veille chez nos voisins en Belgique, il n'y a plus de limite réellement à la veille. Moi, je vois que je veux aussi regarder des sites qui sont aux États-Unis, qui sont aussi au Québec, parce que on a aussi la chance d'avoir avec les différents navigateurs web la traduction automatique. Donc, ce qui permet d'aller lire les articles qui sont en anglais, on nous les traduit, on va dire, plutôt fidèlement, même s'il y a des fois, il y a des choses un petit peu à revoir. Mais je veux dire, on comprend très bien le propos qu'il y a dans les articles. Pour les vidéos YouTube, c'est pareil, hein, on a la traduction automatique. Enfin, il y a la traduction qu'on peut avoir des vidéos, donc on peut aller aussi écouter des vidéos en anglais et avoir les sous-titres. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de frontières au niveau de la veille. Et c'est vrai qu'il y a des sites et des ressources. Il y en a beaucoup de très intéressantes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui vient un peu du Québec. Il y a pas mal au niveau de la veille, tout ce qui est en plus développement professionnel, on va dire plutôt. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont vraiment très intéressantes. En termes de tout ce qui est podcast ou balado, comme ils disent, Intention numérique, par exemple, de Sylvain Duclos et de tout son gang, comme il appelle, donc d'autres personnes du monde de l'éducation et pas forcément, à différents niveaux d'éducation, ce que je trouve intéressant. Il y a le podcast du C2RP aussi, hein, que j'écoute régulièrement, hein, qui est une très bonne source d'information, que j'ai eu la chance, ça me fait penser, par rapport à la veille, c'est ça aussi, des fois, c'est le hasard. On peut tout automatiser, mais il y a aussi une partie du hasard, qui est très intéressante aussi dans la veille, parce que quand on va suivre quelqu'un, je vais prendre l'exemple tout simple du C2RP, enfin du podcast du C2RP, c'est parce que je suis le profil LinkedIn de Jean-Charles Caillé, le papa de la classe renversée, que je suis tombé sur son interview par le C2 Podcast, qui a fait que je me suis un peu intéressé au C2 Podcast. Et en fait, l'épisode d'après, c'était une interview de Julian Alvarez sur la ludopédagogie que je suis aussi. Donc, je me suis encore plus intéressé au C2 Podcast. Et de fil en aiguille, je me suis abonné au flux des épisodes du C2 Podcast. Et j'ai découvert aussi toute une richesse de choses sur l'emploi, la formation, l'orientation, qui donnent matière à réfléchir à la fois sur sa pratique en tant que formateur, mais aussi en tant que activité dans le monde de l'orientation et de l'emploi. Donc voilà, c'était pour dire aussi qu'on peut aussi automatiser une grande partie de son activité, mais il y a une partie du hasard quand même qui vient toujours, qui est toujours appréciable en fait, de tomber sur, on va dire entre guillemets, des pépites. Hein.
Je crois que vous militez presque pour une veille collective, pour que ce soit une œuvre collaborative, parce que celle-ci est d'une importance première. Est-ce que je me trompe ?
La partie veille, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec d'autres professionnels de la formation. Je vois par exemple si je reviens à mon parcours sur le titre professionnel FPA, la partie veille, en fait, c'est que quelques lignes dans le référentiel de compétences, alors que je trouve que c'est un point central justement du formateur et de son activité. Enfin, je trouve qu'on met pas assez l'accent dessus et je trouve également. Alors, heureusement qu'il y a Calliope, puisque ça a amené aussi cette réflexion au sein des OF à dire, la veille, c'est pas quelque chose, un gadget un peu comme la technologie, mais c'est important aussi de rester informé sur ce qui se fait en termes de pratiques, de technologie et autres, réglementation et autres. Mais c'est important aussi, c'est une source, on va dire, d'information qui va être très utile quand on peut en tirer une valeur ajoutée pour l'OF, aussi bien que pour le formateur ou les formateurs. Et je trouve que, voilà. Là où Calliope est très bon, c'est que ça met le curseur sur la veille, mais que la veille, elle n'est pas une fin en soi, parce qu'il propose aussi, OK, on a collecté des informations, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces informations? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Et il incite aussi, il invite à discuter au sein des équipes pédagogiques des différents OF de, tiens, j'ai vu tel article ou telle ressource, ça pourrait nous servir pour notre pratique. Tiens, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça peut modifier aussi des pratiques, des habitudes pédagogiques aussi que l'on a, et se dire tiens, comment la veille devient un élément de communication à l'intérieur de l'entreprise, de l'organisme. Je trouve que des fois, c'est pas assez pris au sérieux, je veux dire, les membres. Je dis pas pour tout le monde, je veux pas faire une généralité, mais de ce que j'ai vu de ma petite expérience, je vois que la veille, on laisse pas assez de place et de, on va dire comment, d'espace aux formateurs, aux équipes pour discuter de cette veille. Puis aussi voir chacun comment il fait de la veille à son niveau et créer une communauté qui s'enrichisse par rapport à ce qu'il va retrouver sur les réseaux, les choses comme ça. Mais surtout, trouver de l'information, c'est bien, mais en discuter, c'est mieux. Pour moi, c'est névralgique. Pour un organisme, c'est névralgique. Et pour un formateur, je trouve que c'est incontournable. Et de pouvoir en discuter avec d'autres, je trouve que ça fait un bien fou, quoi. C'est une richesse. Moi, je prends mon exemple. La veille, ça m'a permis à la fois de sortir de ma zone de confort, de rencontrer du monde au-delà des frontières de la France, de pouvoir échanger, de pouvoir devenir rédacteur pour d'autres cursus, alors que je pensais pas, parce que c'était quand même une source d'information que je suivais quand j'étais en formation.
Vous venez d'évoquer les outils facilitant cette veille. Peut-on avoir quelques pistes?
Alors, il y a une solution gratuite qui est faite par Digiforma qui s'appelle Formalert. J'ai découvert ça quand je faisais au tout début sur Calliope, donc qui peut être un très bon outil pour faire de la veille. Moi, à titre personnel, j'utilise, comme je disais avant, des agrégateurs de flux RSS. Donc, j'utilise Feedly et puis InnoRider. Donc, les deux ont des parties freemium, moi, qui me conviennent parfaitement pour l'utilisation que j'en fais. Mais il y a encore si vous prenez des abonnements, il y a des choses, des fonctionnalités un peu de fou, hein. Mais moi, pour ce que j'en fais, ça, la partie gratuite me convient totalement. Et puis, tout ce qui est lecteur de podcasts, c'est aussi des agrégateurs de flux, hein. Moi, j'utilise Google Podcasts, je suis abonné à pas mal d'émissions de podcasts. YouTube, parce que comme on l'a dit aussi, on peut s'abonner à des chaînes YouTube qui sont très bien, qu'on peut suivre, hein. Je vais en citer une, par exemple, sur les outils techno. Moi, il y a une que je suis depuis que je suis en formation. C'est la chaîne de Johan Nallet, qui fait d'excellents tutoriels sur tout ce qui est les outils techno, que ça soit sur Canva ou d'autres choses. Et moi, depuis le début que j'étais en formation, j'ai suivi ça, ces vidéos, et elles sont super. Et voilà, puis c'est quelqu'un que j'ai appris après par la veille à rentrer en relation avec lui via Twitter. Donc il y a ça. Après, il y a une partie des outils qui me sert à aller collecter de l'information, mais j'ai aussi des outils qui me servent après à l'organiser, à faire de la curation, parce que la veille, comme on l'a dit, il y a la veille, mais il y a l'autre partie aussi, l'autre versant qui est la curation, qui est la façon aussi d'organiser l'information. Moi, personnellement, alors, au tout départ, j'utilisais Flipboard, qui est un outil gratuit qui vous permet de faire des magazines, en fait, différents articles ou ressources, vous les compiler dans des magazines. Et puis depuis, ça doit faire depuis un an, je me suis mis sur Wakelet, qui est un outil totalement gratuit et qui permet de créer des collections et puis d'organiser sa veille. Du coup, moi, j'ai un profil Wakelet et j'ai des différentes collections sur des thématiques qui m'intéressent. Par exemple, la dernière en date, ben, ChatGPT. Donc, j'ai collecté pas mal d'informations sur des articles de fond d'un côté, des utilisations pédagogiques de l'autre et puis des épisodes de podcast qui parlent de l'outil, par exemple. Ce qui est important d'avoir l'information et donc aussi de savoir aussi la catégoriser.
Gérald, il ne nous reste plus qu'à vous demander qui suivre, en plus de s'abonner immédiatement à vos comptes sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Alors oui, bah en plus de me suivre, oui, parce que depuis quelques temps, je fais une newsletter sur LinkedIn que je diffuse via mon site WordPress. Mais pour les autres sources, on va citer, il y a le C2 Podcast, évidemment, à suivre. Vous avez Veille Formation. J'aime beaucoup Stéphane Diebold, qui fait avec AFEN. Et format radio, je trouve excellent ces articles. Et puis, il fait pas mal d'interviews de personnes du monde de la formation. Je trouve ça excellent, ce qu'il fait comme travail. On peut citer Anne-Marie Cuillier, qui fait pas mal de podcasts, le podcast Learn and Enjoy, qui fait aussi des interviews de personnes du digital learning ou autres. Ils sont très, très bien. Gérard Pécou de Calimédia, qui fait son podcast Never Stop Learning. Pareil, des interviews de gens de la formation. On peut suivre aussi Digiformag, fait pas mal de choses, Digiformat, qui est pas Digiformag, pas mal de choses aussi, Centre Info, puis après pour les parties pédagogiques, vous pouvez aller aussi sur, qu'est-ce qu'il y a, j'aime beaucoup aussi Éductive, Todd Cursus, on l'a cité, Éductive, qu'est-ce qu'il y a, l'école branchée, j'aime beaucoup l'école branchée au Québec, qui fait énormément de choses, le cadre 21 aussi, parce qu'on parlait de développement professionnel, eux ils font des auto-formations, des choses comme ça, enfin, il y a d'ailleurs un super podcast qui est fait par Maxime Pelchat, qui s'appelle Mon DP continue, donc là, qui a beaucoup d'acteurs de l'éducation, au niveau de leur développement continu, enfin c'est assez intéressant, enfin super, enfin c'est même génial. Donc voilà, c'est pas mal de pistes comme ça à aller voir. Il y en aurait tellement à dire.
Gérald, un grand merci. Comme vous nous l'avez dit, le Carifor F partage sa veille. Cela tombe très bien puisque ce podcast est celui du Carifor F Hauts-de-France. Et nous avons parmi nous une invitée, Joëlle Masclin, que je vais saluer et se laisser présenter.
Bonjour, donc Joëlle Masclin, je suis moi chargée de la veille au C2RP, qui est un CARIF OREF, le CARIF OREF Hauts-de-France. Et mon temps, c'est 90% de faire de la veille sur l'emploi, la formation, l'orientation.
Joëlle, tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un CARIF OREF. Pouvez-vous nous rappeler de quel type de structure nous parlons?
Donc, un CARIFOREF, c'est une structure, en fait, qui accompagne toutes les politiques publiques autour de la formation, l'emploi, l'orientation. C'est dans le cadre, effectivement, de l'information que nous avons une mission de veille et que nous avons ouvert un portail documentaire sur cette veille.
Peut-on s'arrêter un instant sur ce portail de veille, formation, emploi? Quels objectifs vise-t-il et en quoi consiste-t-il?
Le portail, c'est une ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'avant, on avait une base documentaire qui était consultable uniquement à l'interne, qui comprend énormément de documents et qui a été construit au fur et à mesure des années. On a commencé dans les années 90, pour vous dire, donc c'est quand même assez ancien. On avait à l'époque beaucoup de documents papier. Et puis, au fur et à mesure des années, on a commencé à se structurer pour être plutôt ouvert au numérique. Donc là, maintenant, c'est une base documentaire avec énormément d'articles qui font référence aux documents que vous trouvez éventuellement sur le web. Alors, on a des articles, mais on n'a pas que des articles. On a des articles, on a des documents, des études, rapports, etc.
Puisqu'il est en particulier dédié à la veille, de quelles fonctionnalités dispose-t-il? Quelles fonctionnalités propose-t-il pour faciliter la veille?
La plus-value du portail, effectivement, on peut, quand on fait une recherche, on peut créer faire des paniers, c'est-à-dire récupérer les articles et les mettre dans le panier pour pouvoir aller les revoir ensuite. Pas que, il y a aussi la possibilité de faire des listes. Donc là, c'est des listes par thématique, par centre d'intérêt, et ça permet de trier un petit peu les documents que vous avez vus. Si par exemple vous êtes intéressé sur tous les documents sur l'illettrisme, vous créez une liste illettrisme et tous les documents qui vous intéressent, vous pouvez les mettre dans ces listes. Vous pouvez aussi utiliser il y a un historique des recherches. Donc ça vous permet, ça, si vous avez fait plusieurs recherches, de revenir sur les mêmes recherches et puis gagner du temps. Voilà. Et puis après, il y a un système d'abonnement. D'abord, il y a l'abonnement, et ça, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est plutôt la méthode de push, évidemment. Donc, il y a d'abord l'info hebdo. Donc, l'info hebdo, c'est une newsletter hebdomadaire. Cette newsletter, elle reprend toutes les thématiques du portail. Alors, c'est un abonnement gratuit. Et donc là, ça permet d'avoir les informations selon votre centre d'intérêt, ne plus avoir les informations de la totalité des thématiques que l'on a dans le portail.
Et je crois que c'est pas le seul dispositif de veille proposé par le C2RP.
Oui, donc en fait, nous, on a un Scoop.it. Donc ça, c'est un agrégateur et c'est un Scoop.it qui regroupe dans les articles qu'on en a trouvés dans le web sur l'innovation. Alors, c'est tout confondu, hein, innovation pédagogique, innovation formation. Donc ça, vous le retrouvez sur le portail documentaire, mais aussi sur le site du C2RP, dans un dossier innovation. Après, sur le site du C2RP, vous avez également la possibilité de vous abonner au flux RSS. Vous avez également une newsletter. Donc, c'est le C2 Actu, ça, c'est une newsletter qui est bimensuelle, hein, qui traite donc de l'actualité du C2RP. Et puis, bon, donc après, vous avez possibilité de s'abonner à la chaîne YouTube, on a LinkedIn, on a la plateforme Ocha où on retrouve tous nos podcasts, toutes les actualités, effectivement, du site du C2RP.
Et vous, finalement, vous la trouvez où, votre veille?
Nous, les ressources essentielles, ce sont, par exemple, on a l'AEF, on a effectivement les publications du Centre Info, donc le quotidien d'information, l'info-formation, on a Localtis, on a l'ADARES, l'INSEE, le CEREC, tous des sites vraiment professionnels. Et puis, voilà, on est abonné à différentes newsletters, blogs. Bon, j'en ai entendu qu'on a déjà cité, effectivement, précédemment, quoi.
Joël Masclin, Gérald Thirault, nous arrivons désormais au terme de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation, à remercier nos auditeurs qui retrouveront ce podcast comme tous ceux qui l'ont précédé sur le site du C2RP comme sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Encore merci et à bientôt.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.